France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le droit de vote des Françaises. Le 29 avril 1945, les Françaises se rendent pour la première fois aux urnes pour des élections municipales organisées alors que la guerre ravage toujours le continent européen. Un an auparavant, en avril 1944, à Alger, c'est par une ordonnance que le gouvernement provisoire de la France, sous la baguette du général de Gaulle, faisait entrer les Françaises dans la citoyenneté. La France est pourtant l'un des derniers pays européens à sauter ce pas démocratique. 26 ans après les Britanniques, 25 après les Américaines, mais aussi 51 ans après la Nouvelle-Zélande, premier pays au monde à accorder à la moitié de sa population le droit d'exprimer sa voix. Ou encore 38 ans après la Finlande, premier pays européen à faire ce choix du véritable suffrage universel. En France, cette victoire est obtenue de haute lutte. Longtemps, les femmes ont été en butte aux moqueries et aux dénigrements qui leur déniaient la capacité à s'intéresser à la politique. Des débats pas si vieux qui rappellent que le combat pour l'égalité homme-femme est âpre et que certains arguments vieillissent mal. Notre invitée aujourd'hui, l'historienne Anne-Sarah Bouglet-Moalic, chercheuse associée à l'Université de Caen et autrice de La Marche des citoyennes, livre publié aux éditions du Cerf en 2021, et elle publie dans quelques jours L'éternel antiféminisme aux presses universitaires de Caen. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sylvie Fagnard, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
En ce 29 avril 1945, Suzanne frissonne en passant son manteau noir bien élimé. Le soleil brille sur Paris, mais le printemps reste frisqué. Et puis elle n'a plus, et depuis longtemps, de bas enfilés pour protéger ses jambes nues. Un chapeau, des gants, cela suffira pour affronter le petit vent d'avril. Elle attrape la cagoule bleu ciel qu'elle a tricotée pour sa petite Barbara, puis installe la gamine dans son landau avant de s'engager bravement dans la rue. Hitler va se suicider dans son bunker berlinois, et à Paris, la guerre, l'occupation sont presque de lointains souvenirs. D'ailleurs, aujourd'hui est un grand jour, car il signe le retour de la démocratie. La France n'avait plus voté depuis 9 ans.
Dimanche, toute la France va voter. Avant-guerre, beaucoup d'encre et de salive coulaient à cette occasion. Mais cette année, il en coule au moins autant, sinon plus, car cette année, les femmes vont voter. Comment vont-elles voter? D'ailleurs, voteront-elles? Et pourquoi ne voteraient-elles pas? Dans quel sens vont-elles voter? Autant de questions et bien d'autres que se pose chacun.
Suzanne fait partie de ces 12 millions de Françaises appelées à voter pour la première fois. Comme ses concitoyennes, elle découvre l'isoloir. Dans sa poussette, la petite Barbara observe avec amusement les mollets qui dévoilent les rideaux beiges à mi-hauteur. Autant de jupes et de jambes nues que de pantalons masculins. Les Françaises se sont déplacées en masse ce 29 avril 1945 pour élire leurs conseillers municipaux. Parmi elles, Suzanne donc, mais aussi Marie, Odette, Jeanne, Henriette, Fernande et Thérèse. Des femmes de tout âge et de toutes les classes sociales. Et même des bonnes sœurs à Corbette, qui quittent leur couvent pour la première fois et qui font le bonheur des photographes de presse. Pour le journal Combat, l'écrivain Henri Calais chronique cette première fois.
Certaines femmes font ces premiers gestes avec le plus grand sérieux. Et j'ai remarqué une bien jolie citoyenne très blonde. Elle a tiré d'abord soigneusement les rideaux de l'isoloir, comme si elle allait s'y dévêtir et peut-être y prendre une douche. Elle est demeurée longtemps là-dedans. On n'a plus vu que ses jambes. Et puis elle est sortie pour aller demander des renseignements complémentaires aux messieurs du bureau. Après cela, elle a retourné se cacher derrière les rideaux et notre tour est venu. Moi d'abord, ma femme ensuite. « À voter. À voter. Nous avions voté. » Ma femme ne paraissait pas exagérément émue. J'avais d'ailleurs tout préparé d'avance. Je lui avais bien expliqué le mécanisme de l'opération et j'ai même pris la précaution de lui donner le bulletin de mon choix et de le plier soigneusement dans l'enveloppe. De ce côté, j'étais entièrement rassuré.
Le chroniqueur, humaniste certes, libéral aussi, issu d'une famille d'anarchistes, joue-t-il sur l'ironie pour évoquer l'entrée des femmes dans la citoyenneté? quoi qu'il en soit. Par ses propos empreints de sexisme, il pointe l'un des arguments brandis pour empêcher les femmes de voter. Pensez donc, ces femmes, ces petits êtres évanescents et nécessairement sous emprise de leur père, de leur mari ou du curé, sont bien incapables de se frotter aux choses de la nation. 80 ans plus tard, en 2024, Simone nous répond. Toute jeune fille, elle fait partie de cette première cohorte d'électrices de 1945 et elle raconte au micro de France Culture.
Je me souviens bien de la première fois que j'ai voté. Ah oui, j'étais avec une voisine dans une école, oui. Et il y avait beaucoup de femmes. Hein. Les femmes avaient trouvé que c'était un peu normal. Maman aussi, elle allait voter. Ben oui, c'était un supplément, c'était quand même un titre supplémentaire pour les femmes. Chez moi, on parlait, mais mon mari me disait « ça ne change à rien, le vote des femmes ne changera à rien ». Et moi, je lui disais que si. Pour moi, c'était important. Ah, j'étais contente, oui. Je trouvais que c'était quand même logique de ne pas avoir qu'un seul avis. Et mon mari m'a dit « ça ne changera pas grand-chose. Les femmes, elles vont voter comme leur mari ». J'ai dit « ben non ».
Ben non. Comme une réplique à plus de 150 ans de lutte, ponctuée de plusieurs batailles. Ce très long combat débute à l'avènement de la démocratie et de la République en 1789. Parce que le moment révolutionnaire, qui met à bas les privilèges, consacre l'élection de représentants du peuple, oui mais pas tous. Les hommes naissent libres et égaux en droit, surtout quand ils naissent hommes. Et comme dirait Coluche, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. En fait, seuls les citoyens actifs peuvent prétendre vote. Aux passifs, parmi lesquels on compte les femmes et leurs enfants, on ne demande pas l'avis. La raison avancée par l'abbé Sieyès pour justifier cette mise à l'écart, les femmes sont victimes de leur faible nature. Pourtant, sous l'Ancien Régime, certaines femmes exprimaient leur point de vue. Les veuves et les célibataires, considérés comme des chefs de famille, par exemple. Ou certaines artisanes, membres de corporations. Les religieuses également. Plusieurs d'entre elles ont pris part au débat des États généraux en 1789. Mais la loi du 22 décembre, relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, votée cette année-là, les exclut explicitement du périmètre des électeurs. Le suffrage né de la Révolution est officiellement universel, mais il est masculin et censitaire. Il n'est donc pas universel en vérité. Et les épisodes révolutionnaires du 19e siècle ne changeront pas cette donne sexiste. En 1830, en 1848 ou en 1871, dans les Nouvelles Républiques, s'il s'élargit à l'ensemble du collège masculin, le vote reste donc l'apanage des hommes. Mais l'exclusion de la moitié de la population ne se fait pas sans controverse. En 1791, Olympe de Gouges riposte avec sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et il y fait valoir, noir sur blanc, que la nation est la réunion des hommes et des femmes. Elle meurt sur l'échafaud. Mais c'est en raison de ses inclinations girondines, parce qu'elle réclame l'égalité des droits politiques, pour toutes et tous. Les rédacteurs de la Constitution de la Deuxième République, en 1848, eux, ne se donnent même pas la peine de préciser que seuls les hommes peuvent participer aux élections. Alors une petite finaude, Jeanne de Roy, lingère devenue institutrice, tente la tactique du trou de souris et se présente aux élections législatives de 1849. Elle est déboutée. Mais en cette dernière partie du 19e siècle, vibrionnant de nouveaux droits et de nouvelles idées, voit pourtant les revendications féministes se multiplier. En 1870, Maria de Rheim et Léon Richer créent l'Association pour le droit des femmes. Le 10 juin 1872, cette association organise un grand banquet. On y échange des arguments pour garantir aux femmes des droits civils que le code napoléonien a réduit en lambeaux. On y lit des discours aussi. Des hommes illustres prennent fait et cause pour les femmes. Comme Victor Hugo, ça ne vous étonnera pas, qui fait parvenir ce texte aux organisateurs.
Il est douloureux de le dire, dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. La loi a des euphémismes. Ce que j'appelle une esclave, elle l'appelle une mineure. Cette mineure, selon la loi, cette esclave, selon la réalité, c'est la femme. L'homme a chargé inégalement les deux plateaux du code, dont l'équilibre importe à la conscience humaine. L'homme a fait verser tous les droits de son côté et tous les devoirs du côté de la femme. De là un trouble profond. De là la servitude de la femme. Dans notre législation telle qu'elle est, la femme ne possède pas, elle n'est pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n'est pas. Il y a des citoyens, il n'y a pas de citoyennes. C'est là un état violent. Il faut qu'il cesse.
Les mots du grand Hugo sont imprimés dans un journal, L'Avenir des Femmes, qui appartient à Léon Richer, l'un des fondateurs de l'Association pour leurs droits, précisément. Dans sa maison de Montluçon, dans l'Allier, une jeune femme ouvre le journal. Et le texte qu'elle lit va changer sa vie. Elle s'appelle Hubertine Auclair. Elle a 24 ans, orpheline. Elle a quitté le couvent à sa majorité 3 ans plus tôt. Et désormais, depuis qu'elle a découvert les propos de Victor Hugo, elle sait ce qu'elle veut faire, monter à Paris pour plaider la cause. Elle prend à son tour la plume, écrit dans les colonnes de l'Avenir des Femmes. Mais ses opinions divergent de la position de Léon Richer et Maria de Rheim de l'Association pour le droit des femmes. Elle et lui prônent la stratégie de la brèche. Il faut revendiquer petit à petit l'égalité de droit civil avec les hommes, comme pouvoir divorcer ou toucher son propre salaire. Mais ne pas se montrer trop radical en réclamant le droit de vote. Aux alentours de 1875, cette doléance est même tournée en ridicule. Comment ça? Que les femmes votent? Et pourquoi pas les enfants? Ou même les chevaux, tiens, pendant qu'on y est. Hubertine Auclair, elle ne veut pas avancer par petits pas. Elle prend le problème dans l'autre sens. Si les femmes veulent conquérir l'égalité avec les hommes, il faut que les lois votées reflètent leur intérêt. Et pour cela, il faut que les femmes votent. Hubertine Auclair restera ainsi dans l'histoire comme la première militante française pour le droit des femmes. À l'image de ses suffragettes, ses sœurs de lutte britannique, elle lance des pétitions à l'intention des députés. Elle tente de se faire inscrire sur les listes électorales, mais sans succès. Son plus grand coup d'éclat. Elle le formalise dans une lettre adressée au préfet de la Seine en avril 1880. Si le mot « français » inscrit dans la loi ne peut signifier « française » quand il s'agit du vote, Hubertine Auclair décide qu'il ne peut pas non plus vouloir dire « française » quand il s'agit de payer des impôts. En bref, et simplement, elle écrit « Je n'ai pas de droit, donc je n'ai pas de charge, je ne vote pas, je ne paie pas ». La bataille que livre Hubertine en France, d'autres l'amènent ailleurs, à d'autres points du globe. Et avec un certain succès. Sur l'île de Man, une colonie britannique, les femmes célibataires ou veuves qui payent des impôts peuvent participer aux élections à partir de 1881. En Nouvelle-Zélande, le suffrage devient véritablement universel en 1893. Alors pourquoi ces territoires se montrent-ils plus avancés sur les droits des femmes qu'ailleurs? Explication avec l'historien Martial Poirson dans le documentaire Citoyenne de Jean-Frédéric Thibault et Stéphanie Thomas diffusé sur LCP en 2024.
Une des hypothèses pour le caractère très précoce du droit de vote des femmes en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Finlande, c'est peut-être que justement on est dans des mondes qui sont imprégnés d'une culture plutôt des affaires. Voilà, on est chez des hommes qui ont été des pionniers, qui ont été des découvreurs, qui ont été aussi des pilleurs. Bon, voilà, qui sont mêlés à toutes sortes d'affaires et qui peut-être considèrent que le vrai lieu de pouvoir, c'est pas le lieu de la représentation politique, mais précisément celui des affaires. Ce qu'on voit aussi en particulier dans le nord de l'Europe. Dans le nord de l'Europe, on vous dit, il y a aussi beaucoup de femmes à la fois élues à des postes parfois importants. On dit, c'est bien, elles gèrent les affaires courantes. Et puis pendant ce temps-là, nous, on fait vraiment les affaires sérieuses que sont le commerce, le business, etc.
Quoi qu'il en soit, ces exemples étrangers crédibilisent les discussions sur le droit de vote des femmes. Alors certes, chez nous, les récalcitrants brandissent la question du climat de ces pays lointains et nordiques. Les femmes y seraient plus rationnelles, plus froides, alors que les Françaises sont frivoles et changeantes. Tout le monde le sait. Ce qui ferait leur charme aussi. Malgré tout, on ne peut empêcher l'idée que les femmes sont des citoyennes. En Grande-Bretagne également, ce qui se passe dans son ancienne et lointaine colonie de Nouvelle-Zélande échauffe les esprits. Mais en dépit de pétitions à succès, le Parlement britannique refuse d'examiner la possibilité d'un vote des femmes. Les suffragettes, emmenées par une certaine Emmeline Pankhurst, s'engagent alors dans des actions plus radicales. Elle défile par milliers dans les parcs de Londres. Elle perturbe les meetings des hommes politiques. Et font face à un harcèlement constant de la police. Un millier de militantes sont ainsi arrêtées. En prison, elle se lance dans des grèves de la faim. Mais le pouvoir anglais ne veut rien entendre. Alors on force ces femmes à se nourrir avec des instruments de torture. On les gave comme des oies. La tension monte encore quand en 1910, une loi sur la participation des femmes aux municipales est rejetée par le Parlement. 300 suffragettes déferlent sur le palais de Westminster et affrontent la police. L'opinion bascule en faveur de leur combat. Oui, c'est un feu vert envoyé au plus radical de ces militantes. Alors elles incendient des boîtes aux lettres, envahissent les théâtres et les terrains de golf. Oui, les terrains de golf, allez savoir pourquoi. En tout cas, elles commettent de véritables attentats. Le 19 février 1913, à 6h du matin, une bombe explose dans la résidence d'été du chancelier de l'Échiquier, le ministre des Finances, Lloyd George. Heureusement, sans faire de victimes.
Tu bouges, je ne bougerai pas, j'attends. Et rouge, une flamme s'en va dansant. Et soudain, c'est la terre qui s'ouvre, vocifère ta colère, qui claque, éclate. Tu bouges, moi je ne bouge pas, j'attends. Tu tonnes, résonnes, le bruit de tes cris maintenant. Tu casses, agaces, le temps a suspendu son temps. Tu armes tes armes, tu quêtes mes larmes. Et je reste de glace, méfiante, prudente. Tes armes, tes drames ne m'alarmeront pas, j'attends. Et je guette, je vais saisir entre mes dents. Je guette l'instant où tu vas pantelant. Reprendre ton souffle qui s'essouffle, s'essouffle. Ça ne tardera pas, attends. Alors, démente, mais lente, je me déplace lentement. Mes hanches balancent, j'ai un couteau entre mes dents. Ma bouche si douce grave la feuille et les serpents. La folie, la furie, je hurle vengeance. Je n'épargnerai rien à temps. La terre s'ouvre, s'ouvre, c'est fini, c'est fini. Plus de loup, va-t'en, va-t'en, va-t'en.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le droit de vote des Françaises.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
En Grande-Bretagne, les suffragettes posent des bombes. Et en 1918, au sortir de la Première Guerre mondiale, le Parlement leur accorde enfin le droit de vote. Mais ce n'est pas une victoire de la radicalité. La Grande-Bretagne change en fait de système électoral à cette époque et s'ouvre enfin à tous, tournant le dos au système censitaire. Alors dans ces conditions, difficile de le refuser aux femmes, le vote. Les Britanniques obtiennent donc ce droit, mais partiel. Disons, une semi-victoire qui ne sera complète qu'en 1928. Et en France ? Eh bien en France, la radicalité des suffragettes britanniques inspire. Le 10 mai 1908, lors d'élections municipales, Hubertine Auclair pénètre dans un bureau de vote et, sacrilège, renverse une urne. En début d'année 1914, le quotidien Le Journal organise une grande consultation dans la France entière. Des urnes sont disposées dans Paris, dans lesquelles les partisans du vote des femmes peuvent déposer un bulletin, ce qui est déjà un vote. Ou une esquisse de ce que sera le vrai vote. Le journal récolte plus de 500 000 signatures favorables, dont une grande part parvenue à la rédaction par correspondance. À Paris, comme en province, les femmes veulent que ce débat ait lieu. françaises ne gagnent pas le droit de vote au sortir de la guerre, comme leurs homologues britanniques, mais le sujet parvient jusqu'au Parlement. Ainsi, à partir du 8 mai 1919, on discute à la Chambre des députés d'un texte autorisant les femmes de plus de 30 ans à élire les conseillers communaux. C'est la première fois en France qu'on débat du sujet dans une arène politique. Les députés pour font valoir que les femmes, par leur nature et leur différence avec les hommes, peuvent contribuer à la démocratie en s'impliquant sur les sujets qui les touchent, comme la maternité, la lutte contre l'alcoolisme, l'éducation des enfants. Ils veulent aussi saluer le rôle qu'elles ont joué quand leurs hommes étaient au front. Résultat, 344 députés votent le texte, largement amendé, qui accorde aux femmes tous les droits politiques. Sacrée victoire! Mais c'était sans compter sur le Sénat. La Chambre haute, repère de politiciens très hostiles au vote des femmes, va doucher les espoirs des suffragettes françaises. Le rapporteur annonce la couleur. Il s'agit d'Alexandre Bérard, sénateur radical de l'Ain, farouchement opposé à ce progrès social. L'homme prend son temps pour élaborer son rapport. Pensez donc 3 ans. Et quand il le dévoile en 1922, on peut y lire cette sentence.
Les mains des femmes sont-elles faites pour le pugilat et l'arène publique? Plus que pour manier le bulletin de vote, les mains des femmes sont faites pour être baisées. Baisées dévotement quand ce sont celles des mères. Amoureusement quand ce sont celles des femmes et des fiancées. Séduire et être mère, c'est pour cela qu'est faite la femme.
Le Sénat se laisse facilement convaincre par son rapporteur. Bérard, du Parti radical, et donc frontalement anticlérical, manie l'argument de la dévotion des femmes pour expliquer son hostilité. Ces grenouilles de bénitier voteraient conservateurs comme leur intimerait leur directeur de conscience. Mais c'est surtout une vision très séparée des rôles genrés qu'il brandit. Les femmes doivent s'occuper de leur foyer, de rien d'autre. Sinon, c'est toute la société qui serait déstabilisée. Il faudra attendre encore 10 ans, pendant lesquels le mouvement suffragiste progresse en France, avant que le Sénat n'examine à nouveau le sujet en 1932 pour se prononcer contre. À nouveau. Et les mots se font toujours aussi cruels, sexistes. Comme lorsque le sénateur de la Vienne, issu du groupe de la gauche démocratique, Raymond Duplantier, explique son refus.
Vous allez accorder le droit de vote à toutes les femmes qui se livrent à la prostitution, à toutes celles qui vivent dans l'ombre de ces retraites discrètes et dissimulées, dans les quartiers retirés de tant de villes de province. Et vous allez exposer les habitués de ces établissements hospitaliers à trouver la maison Tellier fermée, non pas pour cause de première communion, mais pour cause de scrutin. Ces dames voudraient être députées. Eh bien non, qu'elles restent ce qu'elles sont, des putains.
Entre-temps, lors des élections municipales de 1925, plusieurs femmes se portent candidates, en particulier sous la bannière communiste. Évidemment, toutes ces candidatures sont invalidées. Mais elles vont siéger quelques années avant cette invalidation définitive. La technique va être répétée de scrutin en scrutin. En mai 1935, se tiennent des élections municipales. Et la nouvelle figure de proue du suffragisme à la française, Louise Weiss, s'exprime dans les actualités.
Je vais poser ma candidature aux élections municipales dans les 7 circonscriptions de la Butte-Montmartre. Arrondissement aux idées généreuses et par tradition acquis aux nobles causes. Pour le jour du scrutin, nous avions organisé 36 sections de vote officieuses à l'aide de 100 volontaires. La police ayant dispersé nos installations, nos sections de vote se sont réfugiées sous les portes cochères et dans les cafés grâce à l'obligeance de commerçantes et de concierges féministes. Cependant, j'ai cru devoir tenir jusqu'au bout une urne symbolique de notre droit et pour la défendre, j'ai manié la poudre. La poudre de riz, s'entend.
Chapeau à voilette sur la tête et rang de perles autour du cou, Louise Weiss a plus de 40 ans quand elle se lance à corps perdu dans le mouvement pour le vote des femmes. Avec l'association La Femme Nouvelle, qu'elle a créée un an plus tôt, en 1934, elle veut remiser au grenier les vieilles méthodes des suffragettes qui l'ont précédée pour mener des actions tonitruantes. Comme avec ses élections municipales de 1935, où pour échapper à l'arrestation, elle souffle de la poudre de riz au nez des gardiens de la paix. Puis elle perturbe la finale de la Coupe de France de football. Tout comme la circulation dans Paris ou rue Royale, elle s'enchaîne aux lampadaires. Et surtout, elle le fait savoir. Chacune de ses actions coup de poing est largement relayée par la presse et jusqu'aux actualités diffusées dans les cinémas. Comme lorsqu'elle se lance dans une expédition punitive contre le sénateur Duplantier en campagne en 1935 pour sa réélection. Celui qui considérait infamement que les prostituées puissent un jour voter est poursuivi par une horde de militantes où qu'il passe. Devant ces meetings, on distribue des tracts listant les obscénités du sénateur. Ces mots grivois à l'endroit des femmes. Il en perdra son siège, battu dès le premier tour. L'année qui suit, donc 1936, est également une année électorale. Les législatives de juin bouleversent les rapports de forces politiques. Et le gouvernement issu du résultat des urnes, celui du Front populaire, est dirigé par un authentique féministe, Léon Blum. D'ailleurs, immédiatement, il prend une décision inédite.
Madame Léon Brunschvicg, sous-secrétaire d'État à l'éducation nationale. Suzanne Lacor, sous-secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Madame Joliot-Curie, sous-secrétaire d'État aux recherches scientifiques. Trois femmes, pour la première fois dans l'histoire de la France, figurent dans un ministère.
Les actualités pâtées rendent compte de cette petite révolution. Mais elles ne provoquent pas de débats enflammés. L'entrée au gouvernement du Front populaire de ces trois femmes, figures respectées dans leurs domaines respectifs, fait-elle vraiment avancer la cause féministe? N'est-ce qu'une vitrine qui ne représenterait pas la réalité sociale du pays? Louise Weiss, la militante radicale de la Femme Nouvelle, tout à son habitude de communication provocatrice, exprime son désaccord.
J'ai été pressentie la première par Léon Blum, qui avait promis de prendre des femmes ministres dans son gouvernement, s'il devenait en effet le chef du gouvernement. Alors, il m'a demandé, après la campagne que j'avais faite, si j'étais disposée à entrer dans son cabinet. L'idée me séduisait, mais Léon Blum a ajouté, il est bien entendu qu'il ne sera plus question du vote des femmes. Et j'ai compris qu'il craignait beaucoup ce vote, parce qu'il n'y avait pas énormément de Français socialistes. En principe, il était pour le vote, mais en fait, il y voyait de très graves inconvénients. Accepter d'être ministre dans ces conditions me semblait faire acte de renégat. Je ne voulais pas être désigné, je voulais être élu.
Et voilà que plane de nouveau sur les femmes le soupçon de conservatisme. Au moment du renouvellement de son cabinet en 1938, Léon Blum ne réitère pas l'expérience et nomme un gouvernement exclusivement masculin. Occasion manquée? Oui, assurément. D'ailleurs, le mouvement suffragiste s'essouffle en France en cette fin des années 30, tout comme la démocratie qui se meurt avec le vote des pleins pouvoirs accordés à Pétain le 10 juillet 1940 et qui va plonger la France dans le plus grand cauchemar qu'elle n'ait jamais connu. Les Françaises ne sont pourtant pas éloignées de la vie politique de ces années sombres. Elles ont repris toutes les tâches des hommes enlevés par le travail forcé. Elles sont aussi nombreuses dans les rangs de la résistance.
Dans les mouvements de résistance, nous avons souhaité vivement, nous avons demandé le vote des femmes. Je faisais partie, entre autres, d'un mouvement de jeunes de défense de la France.
Geneviève de Gaulle.
Et dans les cahiers de défense de la France, il y a nettement exprimé cette demande. Dans les camps, quand nous en parlions ensemble avec mes camarades, nous pensions que ce serait immédiatement après le retour. Nous n'avons pas pensé que ce serait même avant notre retour.
Geneviève de Gaulle, la nièce du général, elle-même impliquée dans un mouvement de résistance, arrêtée en juillet 1943, puis déportée à Ravensbrück, ne participera pas aux premières élections libres de l'après-guerre, celles d'avril 1945, et pour cause, elle n'est de retour en France qu'en mai. Alors remontons le cours du temps de quelques mois. En 1943, les différentes forces de la résistance et les partis politiques qui n'ont pas sombré dans la collaboration se réunissent à Alger, territoire libéré, pour construire la France d'après, dans une assemblée consultative provisoire. La question du vote des femmes est au cœur de ces travaux. Elle l'évoque des dizaines de fois. Comment imaginer en effet une France nouvelle, lavée des horreurs de l'occupation sans un suffrage véritablement universel? Les positions ne sont pas toutes en faveur du vote des femmes. Cette fois, on brandit la désorganisation administrative du territoire.
Moi, général de Gaulle.
Heureusement, la nécessité de faire entrer la France dans une véritable ère démocratique balaie toutes ces arguties. Le 21 avril 1944, le général de Gaulle signe une ordonnance au nom du gouvernement provisoire qui stipule, dans son article 17, que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. On ne saurait être plus clair. La conviction du général, elle aussi, a pesé dans la balance. Sa nièce, Geneviève de Gaulle, le racontera plus tard. Pour lui, ça allait de soi, explique-t-elle. Très attaché aux valeurs familiales, l'homme du 18 juin estimait que les maîtresses des foyers avaient leur mot à dire dans la conduite des affaires publiques. Mais cette ordonnance du 21 avril est surtout le fruit de 150 ans d'une lutte sans relâche. Elle n'est ni le fait d'un seul homme, ni un cadeau accordé aux femmes pour leur dignité au cours du Second Conflit mondial. C'est pourtant ainsi que les médias relaient cette révolution sociale lors du premier scrutin libre en 1945.
Les femmes sont aujourd'hui dans tous les métiers, même les plus durs. Deux guerres à 25 ans d'intervalle ont amené cette transformation. Où les hommes furent absents, les femmes ont dû prendre leur place. À ce nouveau rôle correspondent de nouveaux droits. Il s'agit de réformer l'édifice caduc d'une civilisation basée sur le travail de l'homme pour y faire place à la femme devenue son égale. Doit-on dire que ces durs métiers faits par des femmes ne leur assurent pas des droits et des prérogatives dont les hommes jusqu'ici ont été seuls à bénéficier? Parce qu'il a pensé à toutes celles-là, les femmes qui travaillent, que ce soit à l'usine ou au champ, le gouvernement a déjà assuré aux femmes de France le droit de vote qui leur permettra de faire entendre leur voix. Au cœur de la République qui va naître, elles auront la place qui est la leur comme citoyennes, comme travailleuses.
Désormais sujet de droit, citoyennes actives, comme aurait dit l'abbé Sieyès, qui voulait les exclure de la vie publique, les femmes vont pouvoir militer pour tous leurs autres droits. Et tout d'abord, celui d'être véritablement élues. En 1944, les Françaises acquièrent du même coup le droit d'élire et de se faire élire. Mais aujourd'hui, 80 ans plus tard, la parité politique n'est pas accomplie. Les législatives anticipées de juin 2024 ont amené 36% de femmes sur les bancs de l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est moins qu'en 2022, et surtout qu'en 2017, où plus de 38% des députés élus étaient des femmes. Après de nets progrès dans la représentation féminine depuis les années 2000, sous le coup des lois en faveur de la parité, la proportion d'élus stagne autour du tiers des assemblées. Comme quoi, le long combat d'Olympe de Gouges, d'Hubertine Auclair et de Louise Weiss est loin d'être terminé. Aujourd'hui, le vote des femmes en France, dont nous parlons avec notre invitée Anne-Sara Bouglet-Moalic. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheuse associée auprès de l'Université de Caen et vous avez écrit le livre « La marche des citoyennes », qui est une histoire du droit de vote des femmes en France, publié aux éditions du CERF en 2021. Et le 23 janvier prochain, c'est ça, le 23 ?
Tout à fait. Ouais,
vous publierez « L'éternel antiféminisme » aux presses universitaires de Caen. Il s'agit de la réédition de deux textes autour du droit de vote. Quel était l'objectif de ce travail ?
Alors, ce travail-là, c'est de montrer... Ce sont des textes antisuffragistes. Hein, ces deux textes antisuffragistes, dont un d'Alexandre Bérard, que vous avez cité tout à l'heure, avec le rapport complet qui fait une vingtaine de pages de son rapport, qui est très antisuffragiste. Mm-hmm. Et l'idée était de montrer tous les arguments. Nous, on a en tête forcément aujourd'hui les arguments pour le vote des femmes, parce que ça nous paraît naturel, mais on ne se rend pas forcément compte de l'amplitude des arguments contre le vote des femmes et à quel point on baignait quand même dans un univers qui était plutôt contre les nouveaux droits pour les femmes. Donc de venir publier ces ouvrages-là, qui sont assez truculents et qui méritent d'être lus, donc voilà, l'éternel antiféminisme peut vraiment donner cette idée de ce à quoi pouvait ressembler ce débat-là. Ça permet aussi d'éclairer cette histoire du vote des femmes.
Quels ont été, à votre avis, on en a cité quelques-uns pendant le récit, mais les principaux arguments contre le vote des femmes ?
C'est vrai qu'on entend souvent parler de l'argument du vote des curés. Les femmes auraient voté comme les curés.
Oui.
C'est pas le principal argument, hein. Il existe.
C'est un peu tordu quand même.
Oui, c'est un peu tordu, mais c'est surtout pour montrer que les femmes étaient de toute façon sous influence.
Ouais.
Voilà, donc que ce soit les curés, le mari, etc.
Et on est, pardon, je précise qu'on est à ce moment du débat sous la Troisième République, qui est une république anticléricale avec les radicaux de gauche qui ont le pouvoir longtemps.
Et d'où le fait qu'ils mettent en avant cet argument-là, peut-être, et que nous, on l'ait gardé en mémoire. Il y a une grande crainte de la déstabilisation de la société. Si les femmes votent, elles vont quitter le foyer, soi-disant. Elles vont surtout prendre la place des hommes, et ça inquiète beaucoup. On risque là de casser la cellule familiale. Or, la cellule familiale, c'est ce qui tient cette Troisième République. Donc, il y a cet aspect-là des choses. Et puis, il y a aussi tous ceux qui ont peur de la déstabilisation politique. Et alors là, les radicaux, qui sont vraiment ceux qui représentent la République la plus pure possible, ont très très peur qu'il y ait un afflux de 50% de nouveaux électeurs, que ce soit des femmes ou d'autres personnes, mais là, en l'occurrence, c'est des femmes, et qu'on ne sache pas trop ce qu'ils vont voter. Mmh. Et en fait, ils ont quand même très peur qu'on refasse le scénario de Louis-Napoléon Bonaparte, qui, en 1851, quand les Français, les hommes, ont eu le suffrage universel, ont voté pour lui comme président de la Deuxième République, et lui a fait un coup d'État derrière. Mmh. Et donc ça, c'est quelque chose qui est resté dans la tête des radicaux. Donc ça fait partie de ces nombreux arguments contre le vote des femmes.
Qui sont des arguties, évidemment.
Qui pèsent.
Qui pèsent. Quand on pense au mouvement en faveur du vote des femmes, on pense souvent aux suffragistes, des suffragettes anglaises, qui faisaient la grève de la faim, ou qui ont même posé des bombes. Alors vous dites qu'il s'agit d'une manière de militer minoritaire en Europe et à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'était presque marginal.
Oui, en fait, au Royaume-Uni, vous avez un mouvement qui ressemble beaucoup au mouvement français. C'est-à-dire des femmes qui vont aller demander le droit de vote de manière très polie, en essayant de faire changer la loi. Et ça, en Grande-Bretagne, elle commence dès les années 1860. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on a un petit groupe radical autour de la famille Pankhurst qui, en effet, va mener des actions beaucoup plus militantes, beaucoup plus radicales. Mais en France, alors vous avez cité Hubertine Auclair qui, un jour d'énervement, en effet, a renversé une urne. On a une autre féministe très connue qui s'appelle Madeleine Pelletier, qui mériterait toute une émission rien qu'à elle.
Je note.
Madeleine Pelletier, première interne en psychiatrie de France, grande féministe socialiste, qui, elle, va jeter un caillou dans une vitre d'un bureau de vote. Voilà, ça, c'est nos suffragettes. C'est les seuls actes un petit peu violents, radicaux qu'elles vont avoir. Mais sinon, on est beaucoup sur des femmes qui vont militer pacifiquement, parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont dignes de la République qu'elles réclament.
Par les voies démocratiques, par le débat. Quoi.
Par le débat, par les articles de presse, par les livres, par les conférences. Elles vont partout en France. Hein. Elles sont c'est pas que parisien. Vous l'avez évoqué avec la campagne contre Raymond Duplantier en 1935, mais il y a des groupes, notamment de l'Union française pour le suffrage des femmes, qui sont installés dans toutes les villes de province. Donc voilà, il y a un mouvement là qui est vraiment très très présent.
Vous savez, il y a des gens qui aiment bien lutter contre leurs propres intérêts. Est-ce qu'il y a des femmes anti-droit de vote des femmes et anti-féministes à l'époque ?
Bien sûr. Alors, en Grande-Bretagne, il y a même des associations qui sont créées contre le vote des femmes, des associations de femmes. En France, on va en trouver aussi. Enfin, voilà, il paraît que Colette, l'écrivaine, n'était pas tout à fait pour le vote des femmes. Mmh. Louise Michel, notre grande anarchiste, bon, elle était anarchiste, donc de toute façon, elle était contre le vote. Mais elle n'était pas particulièrement pour le vote des femmes non plus. On retrouve comme ça un certain nombre de femmes qui ne sont pas que des femmes conservatrices, mais qui, en effet, ne sont pas particulièrement en faveur d'une réforme.
Anne-Sara Bouglet-Moalic, je rappelle que vous êtes chercheuse associée auprès de l'Université de Caen et que vous avez écrit « La marche des citoyennes, une histoire du droit de vote des femmes en France », livre publié aux éditions du Cerf en 2021. Vous connaissez donc très bien ce dossier. Reparlons de ce sénateur Duplantier qui non seulement s'oppose au vote des femmes, mais qui les insulte publiquement.
Plusieurs fois.
En plus.
À travers plusieurs débats, pas uniquement sur le débat sur le vote des femmes. Il aime bien mettre des jeux de mots très grivois, alors qu'ils font sans doute beaucoup rire, qui font rire un certain nombre d'autres sénateurs hein, dans cette assemblée où il siège depuis 1920. Ça va lui jouer des tours.
Oui,
ça va lui jouer des tours. En effet, donc voilà, il est très opposé au vote des femmes. Dès les années 1932, il va se mettre à dos, si vous me permettez cette expression, des groupes de suffragistes et de féministes.
Il y a quoi ?
Notamment l'Union française pour le suffrage des femmes et à travers sa présidente Cécile Brunswick, qui est aussi la rédactrice en chef d'un journal qui s'appelle La Française. Et à travers La Française, elle va donc réagir vertement contre les obscénités du sénateur Duplantier dès 1932. Et il va y avoir ensuite des campagnes contre ce sénateur, sur son terrain même, dans la Vienne, qui vont lui faire perdre son siège au bout de quelques temps.
Et on savait quelles étaient ses motivations ? Qu'est-ce qu'il mettait en avant ? Est-ce qu'il mettait en avant le fait que le vote des femmes pourrait être influencé par l'Église, par exemple, ou autre chose ?
Alors, il avait en fait à peu près le même argumentaire que ses collègues comme Alexandre Bérard, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il fait un joyeux mélange de raisons politiques, de raisons sur la nature des femmes aussi, hein, la faiblesse, le fait que ce sont des êtres changeants, etc. Voilà, donc il pose tout ça sur la table. Il n'est pas le seul, globalement, hein, à penser ce que lui va dire tout haut. Et lui ajoute cette touche grivoise qui fait parler de lui et qui fait que, presque 100 ans après, on se rappelle de son nom, alors qu'au final, il n'a pas fait grand-chose d'autre.
Alors, concernant les femmes, vous m'avez parlé de Madeleine Pelletier, Cécile Brunswick, et puis d'autres qu'on a citées pendant le récit. Mais on retrouve toujours le nom de Louise Weiss, comme si elle était la principale. Est-elle la principale, franchement ?
Non.
Ah, ben voilà.
Louise Weiss, il semblait aussi. C'est une belle communicante. Voilà. Louise Weiss est une grande communicante. Elle s'est inspirée des méthodes américaines de l'époque, en utilisant donc beaucoup le cinéma, les actualités, ce qu'on appellerait aujourd'hui des happenings. Donc, en effet, aller interrompre un match de football, envoyer des tracts d'un avion qui survole une ville, s'enchaîner au gré du Palais Royal. Alors, quand elle s'enchaîne au gré du Palais Royal, c'est surtout pour embêter Cécile Brunswick, qui est alors ministre, et avec qui, manifestement, il y a quand même pas mal de tensions. Et donc, beaucoup des témoignages que Louise Weiss va avoir, c'est un peu des piques contre Cécile Brunswick, notamment l'extrait de tout à l'heure, où elle explique en quoi est-ce qu'elle aurait été contactée par Léon Blum pour être ministre et qu'elle a refusé. C'est un tacle, très clair, hein, à Cécile Brunswick,
qui a accepté.
Voilà, donc Louise Weiss, quelque part, est intéressante parce qu'elle a remis un coup de projecteur sur tout ce combat suffragiste. Mais le terrain n'était pas abandonné. Hein. Il y avait à cette époque-là des centaines de milliers de femmes qui adhéraient à des associations suffragistes, sans Louise Weiss. Pour quelqu'un qui avait un engagement chevillé au corps à ce point, on peut quand même noter qu'elle crée son association La Femme Nouvelle en 1934. Et puis dès 1937, c'est fini.
Oui.
Parce qu'elle a trouvé autre chose à faire ailleurs. Alors, voilà, je suis peut-être un petit peu injuste par rapport à Louise Weiss, mais c'est vrai que tant d'autres ont œuvré dans l'ombre pendant des années et des années pour que les femmes obtiennent ce droit de vote. Je voudrais les citer. Alors, je ne vais pas toutes les citer, évidemment. Rappeler donc Cécile Brunswick, hein, très très importante comme figure féministe de cette époque. Et puis Maria Vérone aussi, par exemple. Maria Vérone, elle est la présidente, là aussi pendant plus de 20 ans, d'une autre association très importante qui s'appelle la Ligue française pour le droit des femmes. Elle, son slogan, c'est que si les femmes ne payent pas d'impôts, elles ne vont pas voter.
Oui,
comme
on
le disait Bertine Auclair, voilà.
Ah,
et donc, elle est aussi l'une des premières avocates de France, fondatrice de l'Union des avocates de France, grande militante. Elles sont très nombreuses et elles travaillent, c'est un travail de longue haleine qu'elles mènent.
Alors, Léon Blum ouvre la porte quand même, hein, avant de la refermer. Il y a deux problèmes. D'abord, pourquoi il la referme ?
Il la referme sans doute parce que l'époque est très compliquée. Pour lui, déjà, mener un gouvernement de Front populaire, ce n'est pas simple, hein, même en 1936 et en 1938 non plus. Il y a un gouvernement entre-temps, hein, ce n'est pas une continuité par ailleurs, il y a le gouvernement Chotan, si ma mémoire est bonne, en 1937. Voilà. Par ailleurs, en 1938, je pense qu'il faut se rappeler constamment, quand on parle de cette période-là, que la montée des périls est réelle, est bien ressenti partout, que ça soulève des inquiétudes énormes et qu'en effet, le crépuscule de la démocratie est quand même bien ressenti à ce moment-là. Et donc, sans doute que Léon Blum n'est plus à se dire qu'il va faire des expériences, mais que là...
Il est dans l'urgence.
Il est dans cette urgence, tout à fait.
Bien sûr. Alors, il y avait aussi peut-être le problème de nommer quelques ministres comme un alibi, finalement, et que ça ne représente pas la situation réelle de toute la France.
C'est certain. C'est la pièce, c'est le côté sombre de la pièce. Moi, je vais garder le côté positif, qui est que c'était un acte... assez révolutionnaire, que lui avait annoncé depuis des années, qu'il était très sincèrement en faveur du vote des femmes et du rôle politique des femmes, même si c'était un homme de son temps, avec aussi sa vision assez conservatrice, hein, quand même, du rôle des femmes. Et puis, à noter qu'en plus de cette nomination, en 1936, l'ensemble de la Chambre des députés va voter, lors de la première session en juin 1936, ils vont voter dans l'urgence l'intégralité du vote des femmes et de leur éligibilité à nouveau. Et à l'unanimité, il n'y a pas un député qui ne lève pas la main. Il y a quand même là une forme d'unanimité et du gouvernement et de la Chambre des députés en faveur du droit de vote.
Alors, l'autre nom associé au droit de vote des Français, c'est celui du général de Gaulle, évidemment. Quel est votre regard sur son action dans ce domaine ?
Il a signé l'ordonnance. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a lancé le débat. Il n'a pas combattu plus que d'autres en faveur de cette réforme-là. Mmh. Il y a eu, comme vous l'avez rappelé, à nouveau un débat à l'Assemblée provisoire à Alger avec du pour, du contre, et qui a fini par être en faveur du vote des femmes. Et aujourd'hui, il y a pas mal de récupérations sur la figure du général de Gaulle, qui ne s'est pas opposé au droit de vote, qui a signé l'ordonnance, mais dont on ne peut pas faire non plus un fervent combattant du droit de vote des femmes.
Preuve en est dans l'un de ses discours à la télévision, il a pris la métaphore de la ménagère qui est bien contente d'avoir une machine à laver, ça c'est le progrès, disait-il, mais qui dit à sa fille, pas à son fils, tu vas pas barbaucher, à sa fille, hein. Voilà, donc c'est un homme de son temps. Dites-moi, l'autrice Clémentine Beauvais, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, a récemment publié un tract chez Gallimard en faveur du vote des enfants. Est-ce qu'on peut encore imaginer une extension du corps électoral jusqu'aux enfants ? Et de quel âge ?
Alors, moi, j'ai lu son petit tract. J'avoue que j'aime beaucoup Clémentine Beauvais. Je ne la suivrai pas sur ce terrain-là. S'il y avait une extension du droit de vote à avoir, moi, je la verrais plutôt, j'en suis navrée, mais encore chez des adultes. Et peut-être à tenter chez les étrangers, aux élections municipales,
oui,
par exemple.
Oui, un parallèle, d'ailleurs, entre ce qui s'est passé pour les femmes et ce qui... pourrait se passer pour...
En tout cas, il y a des arguments qu'on retrouve dans ce débat-là.
Oui.
Et s'il y avait cette extension à faire, peut-être qu'un test serait plutôt vers ce public-là.
Bien, ce sera le mot de la fin, Anne-Sarah Bouglé-Moalic. Je rappelle le titre du livre qui va sortir, votre livre, qui va sortir le 23 janvier prochain en presse universitaire de Caen, comme le livre d'avant, s'appelle « L'éternel antiféminisme ». Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le droit de vote pour les femmes en France, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.